le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Pourquoi des informaticiens développent des logiciels libres? Pourquoi publier sur Wikipédia? Pourquoi choisir un habitat participatif? Quels intérêts ces personnes, ces communautés trouvent-elles dans ces projets en commun? Au-delà de ces intérêts particuliers, quels sont les intérêts politiques, économiques et sociologiques pour tous de ces communs? Nous poursuivons donc la conversation avec nos invités. Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO, membre du LABERS, laboratoire de sociologie de l'UBO, auteur d'une thèse en cours sur l'habitat participatif. Michael Lavenne, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, membre du LABLEX, laboratoire de droit, auteur d'un article sur la facturation de services de police aux collectivités locales. Et Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique, auteur de « Les conditions d'existence d'un commun numérique de connaissances ». En dernière partie d'émission, vous pourrez également retrouver notre séquence « Les questions du public ». Dans le numéro précédent, nous avons demandé à nos invités de définir les communs. Pour ce deuxième numéro du Lab U consacré aux communs, nous nous intéressons aux acteurs eux-mêmes. Pourquoi s'engagent-ils dans les communs? La parole, pour commencer, à Nicolas Julien.
Si on regarde justement ces collectifs-là, donc le paradoxe, hein, c'est pour un économiste, c'est de dire bah, ces gens-là ne sont pas obligés de contribuer et à l'encyclopédie et pourtant elle existe et puis n'importe qui peut accéder à la connaissance. Alors posé comme ça, c'est assez étrange en fait, mais si on pose la question de bah, pourquoi les gens y vont, pourquoi les gens font ça, et on va voir comment justement on construit un commun, c'est-à-dire non seulement une ressource qui est partagée, qui peut être rivale, mais aussi des règles pour gérer cette ressource. En fait, les gens qui participent à Linux ou à Wikipédia ou à d'autres systèmes de ce genre, leur but, c'est pas du tout, je suis désolé hein, de vous dire ça, mais c'est pas du tout de construire une encyclopédie ou un objet de connaissance qui serait accessible par tous. C'est pas ça leur but. En fait, ils s'en fichent un petit peu des gens qui vont les lire. Ils sont contents qu'il y ait de l'audience, et c'est la raison pour laquelle ils vont aller sur Wikipédia et pas sur un autre site, par exemple. Mais ce qui les intéresse, eux, c'est qu'ils trouvent là un endroit où ils vont pouvoir travailler sur leurs connaissances, les mettre en forme, éventuellement rencontrer d'autres personnes qui ont leur même centre d'intérêt qu'eux, et co-construire finalement quelque chose qui, eux, les intéresse, qui est... les calvaires bretons, l'histoire de France, etc. Donc c'est vraiment une attitude assez auto-centrée qui est de travailler. Ce qui les intéresse, c'est d'accéder au flux de connaissances, à la création de connaissances. Il y a des gens qui sont passionnés par l'écriture d'articles et ils trouvent là un moyen de le faire. Et sur Linux, c'est un petit peu la même chose. Alors, c'est pas l'écriture d'articles, mais c'est s'assurer que un système d'exploitation dont ils ont besoin fonctionne bien avec leur machine, leur logiciel, etc., le maintenant. Et puis, il y a évidemment le défi intellectuel. Mettre en place un article, mettre en place du code, c'est compliqué. Intellectuellement, c'est stimulant. Et ça stimule les gens. En fait, l'individu, il aime bien apprendre des choses, être là, il aime bien faire marcher son cerveau. Et c'est ça qui stimule ces gens-là. Après que ça crée une encyclopédie, finalement, ils sont contents parce qu'ils sont lus. Même si vous ne savez pas qui est derrière, eux le savent, et ils sont contents de voir que leur article a tant de vues, que Linux est utilisé. Et là, on a bien l'idée d'un commun, c'est-à-dire que ces gens-là vont accéder à une ressource qui va être un peu rare, c'est l'article. Il n'y a pas 36 000 articles sur la Seconde Guerre mondiale. Les pairs, les collègues avec qui travailler, avec qui échanger, avec qui... tout ça, c'est des ressources rares. Et donc, Wikipédia va gérer cet accès-là. Et c'est très dur, il va empêcher les gens de contribuer. C'est un peu paradoxal, mais c'est difficile de contribuer à Wikipédia aujourd'hui. Et on va mettre en place des règles pour réguler ces contributions, pour organiser tout ça, pour vérifier aussi que ces contributions sont conformes au projet du projet. Et le bien qui est accessible à tout le monde, que tout le monde peut utiliser, mais pas consommer, c'est l'encyclopédie. On consomme le fait de pouvoir produire de la connaissance et tout le monde a le droit d'utiliser. Et c'est ça, un commun au sens de Strom. Il y a ces deux notions-là. Donc voilà pourquoi les gens le font et voilà pourquoi ils y accèdent. Après, et là je pense qu'on va en discuter, il y a évidemment d'autres raisons de participer à une aventure collective. Et c'est ça qu'on va retrouver dans d'autres formes, de commun ou non, mais en tout cas toujours collective avec des règles négociées.
Ce qui est intéressant là pour moi, ouais, c'est il y a un bénéfice presque, enfin pas selon les trébuchants, mais il y a un bénéfice de connaissance, un bénéfice de relation, un bénéfice de publicisation.
Il y a un bénéfice immédiat à l'acte voilà. De contribuer.
Très bien. Merci. Pierre, pourquoi des gens se mettent ensemble pour fabriquer un habitat collectif? Parce que c'est pas facile, hein, faut trouver l'argent, faut trouver. C'est tout un chemin énorme. Quelles sont les motivations de ces acteurs?
Alors les motivations, je vais faire encore la même chose, c'est-à-dire que je vais parler des habitats participatifs pour après arriver en quoi moi je définis que je reconnais des communs. Il y a plusieurs intérêts, en tout cas, à mener des habitats participatifs, et je précise tout de suite que le principal intérêt qui est souvent affiché, espéré, mais qui ne fonctionne jamais, voire rarement, vous m'avez compris, c'est que ça soit moins cher. C'est-à-dire que faire en sorte que l'habitat soit moins cher, ça ne fonctionne pas, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on pense qu'il y aura une économie d'échelle. Or, l'échelle, finalement, elle n'est pas si grande que ça. C'est-à-dire que les habitats participatifs, on parle des gens qui se regroupent à l'échelle de 4 logements, ou 10 logements, ou 20 logements, mais pas beaucoup plus. Ou s'il y en a plus, c'est parce qu'il y a un bailleur social, et du coup, en fait, l'économie d'échelle, c'est celle du bailleur social. On n'est pas en train de parler des castors ou des qui construisent d'une manière en série des mêmes logements en série tous pareils et puis avec des comme des bailleurs sociaux qui reproduisent des logements pour des grands ensembles et puis en plus qui reproduisent même les ensembles. Dans les habitats participatifs, il y a toujours une recherche d'originalité, de faire ce qu'on dit un habitat à notre image, et du coup l'économie d'échelle ne fonctionne pas tant que ça. Elle fonctionne un petit peu, on fait un petit peu d'économie, mais deuxième chose très importante, c'est que toutes les économies qu'on fait, finalement, on les reporte sur l'habitat lui-même pour avoir un habitat plus écologique ou plus original ou plus beau ou plus tout ce que vous voulez, mais du coup on met pas, c'est pas moins cher. On peut dire que c'est un même logement de meilleure qualité pour le même prix, on peut dire ça, mais c'est pas moins cher. Ça, c'est le premier truc. Qu'est-ce qu'on recherche, du coup, par contre, qu'est-ce qu'on retrouve tout le temps? Alors après, il y en a qui vont dire que l'intérêt, c'est que ça soit plus écologique, que ça soit plus antispéculatif ou des choses comme ça. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure pour la question, est-ce que c'est un bien de club ou est-ce que c'est un bien commun? Ça me paraît pas évident, tout à fait, que ça soit un bien de club pour cette question-là, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on gagne, ce que les habitants gagnent, c'est en termes d'habiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'habiter? Faut bien dire que c'est pas du logement, enfin, c'est pas loger. Je suis obligé de dédier un petit peu la différence. Loger, ça se référence au bâtiment. Le fait qu'on loge dans un bâtiment, on loge plus ou moins bien en fonction du confort, etc. Habiter, c'est quelque chose de beaucoup plus symbolique qui est en rapport avec moi, enfin avec chaque personne. On peut habiter aussi une ville, on peut habiter aussi un quartier, et c'est pas forcément un logement. C'est un rapport symbolique que j'ai avec l'espace, avec les gens, avec est-ce que c'est quelque chose qui m'est familier, est-ce que c'est quelque chose dans lequel je projette des souvenirs, où je suis à l'aise, etc. Et en fait, en un mot, qu'est-ce qu'on gagne de plus dans un habitat participatif où on gère plein de relations avec ses voisins immédiats, plein de relations avec les voisins à côté, on essaye de faire des repas de quartier, etc., où on essaye de monter des projets en permanence pour faire des choses avec les enfants, où on essaye de mieux habiter les espaces communs et pas simplement l'espace privé, et on essaye de générer formellement et informellement plus de convivialité, et bien c'est plus d'habiter. Voilà la chose qui est recherchée. On pourrait dire après des choses plus utilitaires, comme tu disais, c'est-à-dire que quelque part on pourrait se dire que c'est aussi gagner plus de fierté, plus de prestige social. Il y a aussi des choses comme ça. Ça fait partie aussi de l'habiter, parce que on peut pas délier l'habiter de l'estime qu'on a de soi-même. Donc tout ça est lié. Et les gens d'habitat participatif sont toujours très très fiers de leur projet. Voire même, on peut le dire, un peu arrogant, parce que tout ça est très lié.
Je m'adresse maintenant à Michael. Alors la question est un peu différente, puisque là on parle de l'État, mais Donc l'État et la progression du droit vont vers un code général de la propriété des personnes publiques. Donc l'État qui était gardien devient propriétaire. On va aussi vers une extension des autorisations d'occupation du domaine public. Alors question peut-être naïve, qu'a gagné l'État ? Alors l'État, bon. Qu'aurait à gagner un État à devenir propriétaire, à confier à des entités privées la gestion du domaine public dont il est le gardien et non pas normalement le propriétaire.
Mais sur la question c'est une question un peu voisine concernant les internes, c'est toujours un peu délicat de dire pourquoi quelqu'un fait ce qu'il fait. Oui, il y a toujours, bon, c'est toujours un peu, surtout oui. Si on parle de ça, on aura sans doute des raisons valorisantes de le dire. Donc pour l'État, c'est
enfin, compliqué. Moi, je parle, pour être précis, l'intérêt des juristes qui vont dans ce sens-là. Ouais.
Si on a une position, concernant le Code général de la propriété des personnes publiques, il est adopté en 2006. On est dans un processus de rationalisation de la dépense publique et de restriction budgétaire grandissante qu'on connaît toujours aujourd'hui. L'idée est de dire que l'État dispose d'un domaine qui est extrêmement grand et qui peut être une ressource économique qui n'est pas suffisamment valorisée. Et donc on va revoir les règles de la domanialité publique, à l'époque de la domanialité publique, pour permettre aux communes, notamment, de donner plus d'autorisations d'occupation du domaine public, pour que les entreprises, ce soit plus facile pour elles d'investir, parce que pour des raisons techniques, les autorisations d'occupation sont toujours précaires. Alors maintenant, sur l'intérêt que l'État a à ça, soit on a une approche qui consiste à dire, dès qu'il y a un intérêt privé dans la gestion du domaine public, on n'est plus dans l'intérêt général. Et donc, on est vraiment dans une exploitation économique qui n'est pas d'intérêt général. Soit on considère que l'intérêt économique est d'intérêt général. Et en fait, ce sont deux manières différentes de voir la même chose. Je vais prendre un exemple du passé, on en parlait juste avant, mais qui me paraît très évocateur. Après la Première Guerre mondiale, donc la France est évidemment complètement cassée du point de vue budgétaire et évidemment la population, etc. Et les communes n'ont plus un sou, et les communes se mettent à octroyer des avantages fiscaux, ce qu'on appelait à l'époque les droits d'octroi, pour que les entreprises viennent sur leur territoire. Donc c'est pas nouveau, cette affaire-là d'attirer les entreprises. Au début, le Conseil d'État, par exemple en 1918, concernant la société Schneider, dit les communes ne peuvent pas faire ça, parce que l'intérêt économique n'est pas une composante de l'intérêt général.
La notion de rationalité économique est souvent, elle est au fond de beaucoup de réflexions d'économistes. C'est-à-dire l'intérêt, bien compris, d'acteurs à agir. Est-ce que l'émergence de plus en plus de projets communs comme Wikipédia, Linux et d'autres, d'habitat participatif, etc. Est-ce que pour quelqu'un qui fait de l'économie, ça l'amène à se réinterroger sur cette notion de rationalité, de comportement rationnel pour expliquer le comportement des gens qui s'engagent dans des projets économiques ?
Mais alors, pas du tout. Parce que justement, l'économiste est assez malin pour dire que les gens, ils font des choses pour des bonnes raisons. Voilà.
Ça, oui.
Et qu'ils ont toujours des bonnes raisons à le faire ou il y a des raisons pour lesquelles ils le font. Ces raisons-là peuvent être économiques, financières, mais pas seulement. Hein ? Et donc, les gens vont faire des choses parce que ça augmente leur utilité, ça leur permet de faire des choses qu'ils ont envie de faire ou dont ils ont besoin. Donc, c'est pas. Quand on parle de rationalité, on dit juste que les gens, ils font pas n'importe quoi. Et que s'ils le font, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Ils peuvent être contraints par des éléments extérieurs, par faire toute la sociologie. Ils peuvent avoir des espaces de choix qui sont limités. Mais ce qui les pousse à agir, c'est leur intérêt propre et éventuellement d'autres intérêts qu'ils prennent en compte. Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est rationnel. C'est pas n'importe quoi. Et donc, ce qu'on peut aller leur demander, pourquoi ils font ça ? Que les gens sont capables d'expliquer pourquoi ils vont, ou on peut observer pourquoi ils font des choses. C'est tout ce qu'on dit. Donc non, les gens font toujours... Si aujourd'hui, on a une explosion ou une augmentation du faire collectif, des projets collectifs, Ça peut être pour des raisons techniques, c'est plus facile aujourd'hui. On peut plus facilement faire des choses avec le numérique. Pas tout, hein, mais il y a des choses quand même qui sont plus faciles. C'est aussi parce que on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés à ne pas partager des choses, à ne pas connaître ce voisin, à ne pas négocier, que ça diminuait notre utilité à habiter un endroit. Voilà, c'est tout. Tout le monde ne veut pas participer à un habitat collectif. Mais les gens qui le font ont des bonnes raisons de le faire. Et je crois qu'elles ont... Enfin, Pierre les a expliquées de manière assez claire. Après, peut-être que la réalité est un petit peu différente de ce qu'ils anticipaient. Ça, c'est vrai.
Les questions du public.
Oui, pour moi, ce qui est peut-être important et structurant dans cette affaire-là, c'est, je ne suis pas économiste de profession, donc je n'ose pas en parler, mais c'est quand même ce qui circule. Qu'est-ce qui circule entre nous, comme disaient les gens du MOS, là, qui sont très, très branchés sur le don et sur le don contre don et ces organisations-là. Et pour moi, c'est un enjeu aujourd'hui d'une pression qu'on a pour que ce qui circule, ce soit de l'argent. Et il y a forcément de l'argent quelque part, je pense que l'habitat participatif, il y a forcément d'histoire dessous, mais c'est, le plus important, c'est bien cette relation qui s'inscrit entre les gens et qu'ils ont envie de faire perdurer. C'est-à-dire qu'il y a bien don contre don, recontre don, etc. Il y a bien envie de faire circuler quelque chose qui ne soit pas des sous, qui ne soit pas du fric. Et je pense que c'est... pour l'explication économique, moi, c'est cette partie-là qui me paraîtrait, dans l'explication sur le plan de l'économie, c'est de la rationalité sûrement, mais si on veut que c'est le don bien compris, c'est-à-dire que le gars qui écrit dans Wikipédia, il va recevoir une notoriété, effectivement, c'est un contre-don typique, mais il va aussi faire que d'autres gens voient qu'il l'a fait et que donc ça va relancer le circuit. Donc pour moi, ce qui est important, c'est ce qui circule, et pour moi, c'est cet aspect don qui circule qui fait un peu la différence avec le fric ou le pouvoir obligatoire qu'on peut avoir dans l'État.
Merci. Autre question ?
Ouais, j'ai jamais dit qu'il n'y avait que de l'argent. Hein. L'économiste n'intéresse pas qu'à l'argent.
Par contre, souvent c'est rassurant pour l'économie de mesurer les choses, avec de l'argent notamment. Pendant longtemps, on s'est basé sur la notion de PIB qui est remise en question aujourd'hui. À travers les communs, souvent j'ai le sentiment qu'on parle de choses qui ne sont pas forcément monnayables. Du coup mesurable, et je pense à l'exemple, enfin moi je suis bénévole dans un jardin partagé, mais j'ai des amis aussi qui pêchent les ormeaux dans le pays de Pagande, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Pierre, et on a fait une très mauvaise pêche, la dernière pêche, et on s'est posé la question, est-ce que la ressource n'est pas captée par des gens qui achètent des licences pour que des gens qui ont les moyens d'acheter des ormeaux à Paris ou ailleurs puissent avoir accès à cette ressource. Et là, je me suis dit, ah bah oui, c'est quand même bizarre parce que, pourquoi il y en a si peu consommé par les gens du pays pagande aujourd'hui, quoi. Donc, c'est une question que je me pose. Et est-ce que le fait qu'on n'ait pas su mettre en avant ce que ça apportait, en fait, parce que j'ai toujours des amis qui pêchent pas mal, ce qu'on appelle la pêche récréative, qui leur permet de se nourrir. On l'a pas monnayé, on l'a pas mesuré, et du coup, on a considéré que c'était récréatif. Enfin, voilà, qu'on pouvait s'en passer, que c'était presque un luxe, alors que c'est, on parlait de se nourrir. Et est-ce que c'est pas une fragilité de cette notion de commun que souvent, en fait, ça passe à côté de l'économie monnayable.
C'est une question. Enfin, voilà. Là, c'est typiquement, on est dans des communs d'exploitation d'une ressource halieutique. Enfin, bon, c'est même si c'est sur le bord de la mer, mais dans un espace, et qui finalement va gérer cette ressource-là. Alors, c'est de l'espace public maritime, si je ne me trompe. Donc c'est l'État qui en est aujourd'hui propriétaire, c'est ça qu'on dit ? Enfin voilà, qui de le réguler, qui distribuer. Et donc c'est l'État qui a dit, on va réguler ça d'une manière très simple. Ça va être nous qui allons décider qui a le droit de pêcher. Il y a des licences et puis on autorise un petit peu de pêche à pied. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de gérer cette ressource ? Le fait que certains puissent l'exploiter, pour leur bien. Alors ça peut être pour dégager des revenus financiers ou simplement pour leur plaisir. Hein? Est-ce que c'est la meilleure manière pour le collectif ou la société que cette ressource-là fonctionne? La gestion des coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc ou en baie de Brest n'est pas la même. L'État l'a délégué en partie à un groupe de pêcheurs qui, eux, gèrent cette ressource. C'est le seul qui ont le droit de l'exploiter. C'est eux qui gèrent un peu les licences, le nombre de licences, avec Ifremer. Enfin, il y a d'autres institutions qui régulent aussi. Donc, c'est assez compliqué comme jeu. Quelquefois, il n'y a pas d'institution à d'autres endroits. Donc, voilà, c'est une bonne question. Est-ce que, finalement, les communes du pays pagan, représentant leurs électeurs ou leurs, comment on dit, leurs habitants, ne peuvent pas dire à un moment... C'est à nous de réguler ça et de réguler cet accès-là. On peut l'imaginer. On peut imaginer que ça soit les habitants du pays pagan qui décident collectivement. Alors peut-être qu'ils auraient besoin de l'Ifremer, mais qu'il faudrait que l'État les y autorise. Combien, qui aura le droit de pêcher quoi, combien, etc. On peut l'imaginer. Ça a existé sur d'autres espaces en France. Mais c'est une vraie question, Et la vraie question derrière, c'est de dire, là, on a une ressource qui est une ressource, certes renouvelable, mais qui est quand même rivale. Est-ce que les règles qui ont été édifiées fonctionnent? On a le droit, en tant que citoyenne, de poser cette question. Alors, je ne sais pas exactement comment. Et deuxième question, est-ce que l'intérêt économique qui est mis prioritaire là est... ce qui doit être mis en avant sur la gestion de cette ressource-là. Est-ce que l'intérêt économique justifie le fait qu'il y ait des licences qui soient mises et qu'on le gère comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts, effectivement, qui ont été mal pris en compte et qui devraient être mieux pris en compte? Et ça, je ne sais pas comment on fait pour...
Moi, ça m'amène une autre question sur les ormeaux. Je pêche aussi les ormeaux. Bon, ils sont rares. On pourrait s'interroger sur la question des ormeaux, tous ici en Bretagne. Quelle serait l'efficacité, justement, d'une gestion sous le modèle des communs? C'est-à-dire, on définit une communauté, on définit des règles, on définit la ressource. Bon, la ressource, elle est là. Et qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux? Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle le mieux? Confier à des pêcheurs professionnels qui vont prendre beaucoup d'ormeaux, qui vont les numéroter, certes, mais bon, voilà. Et où? Imaginer de le gérer d'une façon commune. Donc je pose la question, je sais pas, aux sociologues, aux juristes, ou à l'économiste. Au regard des travaux que vous avez fait déjà sur les communs, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant en disant vaut peut-être mieux pour ce type de ressources aller vers un fonctionnement du type commun, c'est-à-dire c'est pas l'État qui gère l'octroi de licences. C'est une communauté, ça peut être une communauté de communes, ça peut être d'autres, une communauté de pêcheurs. En baie de Saint-Brieuc, c'est des pêcheurs. Quelle serait l'efficacité particulière donc d'une gestion selon les principes des communs tels que l'a défini Ostrom? Je pose la question aux trois.
Alors je vais réfléchir en même temps que je réponds. On prend une commune sur la gestion, par exemple, on lui attribue la gestion d'une ressource en disant finalement, en fait, vous êtes les mieux placés puisque vous connaissez, vous avez le savoir pratique, etc. Et pas celui de l'Ifremer, mais le savoir pratique sur une ressource. Vous avez une autre commune, on lui dit pareil, vous faites pareil. Et puis, en fait, vous avez toutes les communes littorales à qui vous attribuez cette compétence-là. Parce que, en fait, juridiquement, c'est ça, c'est attribuer des compétences de gestion et d'autorisation à ces communes. La difficulté, en fait, c'est la cohérence de ce qui va être mené en fait sur le bassin d'ensemble. Alors après, est-ce qu'il faut une cohérence? Je n'en sais rien, mais vous savez, c'est un peu la même question qui s'est posée, vous allez voir le lien, avec la question de la réglementation sur la chasse concernant les oiseaux migrateurs. C'est-à-dire que si on ne se met pas d'accord sur entre les pays sur l'axe de passage des oiseaux, vous pouvez les protéger dans un pays, s'ils peuvent se faire flinguer dans celui d'après, ça ne sert à rien. Donc, et c'est là que ça pose la question d'une structure au-dessus qui va gérer ça. Alors, c'est pour ça, après, sur la modalité, on peut imaginer au niveau communal une compétence d'instruction, enfin, comme on peut imaginer en matière de permis de construire, une compétence sur l'octroi des autorisations, et puis, en fait, un contrôle a posteriori pour vérifier que toutes les autorisations qui sont données le sont quand même dans une certaine cohérence. Ça pourrait être envisagé, ce genre... ce genre de choses. Mais après, c'est toujours pareil. Ça aurait des désavantages, mais ça présenterait au moins l'inconvénient d'avoir, on va dire, un savoir communal, quoi, et donc commun.
Sur les ormeaux, Pierre, pas d'avis?
Non, les ormeaux, je ne m'y connais pas particulièrement, mais en tout cas, je fais un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais qu'il n'y a pas moins d'État, et ça, je suis entièrement d'accord, en fait, que c'est, à mon avis, si on entend autant parler des communs aujourd'hui, c'est parce que, je ne dirais pas parce qu'il y a moins de public, enfin, en tout cas, ce n'est pas exactement ça, mais je le dirais comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est la régulation publique qui change. Et du coup, qui change de forme. Et du coup, on parle moins facilement, moins d'intérêt général ou de monopole de l'intérêt général par l'État, parce que par définition, l'intérêt général est effectivement défini par l'État. Et on est arrivé à des modes de régulation, alors que ce soit des hormones ou que ce soit n'importe quoi d'autre, qui sont plutôt des formes de partenariat, par définition, des partenariats entre l'État et d'autres. Et comme c'est pas l'État, on dit que c'est la société civile, parce que la société civile, en fait, par définition, c'est l'autre. Pour les militaires, la société civile, c'est les non-militaires. Pour l'hôpital, la société civile, c'est les ceux qui sont pas dans l'hôpital. Pour l'université, quand on dit qu'on fait une communication pour la société civile, c'est en dehors de l'université. Donc voilà. Et donc il y a toujours des partenariats. Et donc, j'ai perdu mon fil. Bon, voilà. Et donc, je pense que si on parle de plus en plus de commun, c'est pour, justement, dans toute la polysémie de ce terme-là, on rend compte dans le succès de cette polysémie-là, c'est parce qu'il y a, justement, une polysémie de formes de régulation qui sont toujours, d'une certaine manière, partenariales. Si vraiment on parle de groupes auto-centrés sur eux-mêmes, je ne sais pas si on parle vraiment de commun, s'il n'y a pas, justement, des formes de partenaires d'une manière ou d'une autre.
C'est très clair, oui, effectivement, que toute organisation est toujours dans un système institutionnel et encastrée, pour reprendre des mots de sociologue, dans différents niveaux de règles et différents niveaux d'institutions. Donc, si on imaginait une gestion communale ou des hormones, on pourrait aussi l'imaginer parce que au-dessus, oui, il y aurait eu le droit donné par le garant de la gestion de l'espace public, de le faire. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la coquille Saint-Jacques, c'est contrôlé aussi, et c'est autorisé, et avec une institution qui s'appelle Ifremer, qui va faire les prélèvements, qui est voilà, sur toutes les discussions aussi sur les huîtres à Arcachon. C'est toujours un jeu d'acteurs qui est très compliqué, et des relations qui sont finalement contractuelles. Il n'y a plus la puissance publique qui arrive et qui décide des autres. Elle régule, souvent a priori, ou par le contrat ou par la règle. Donc c'est des jeux qui sont beaucoup plus compliqués, sans doute, que ce qu'on a connu, qui en même temps créent des espaces de liberté, puisqu'on peut faire ensemble des choses, on se crée association, on fait des choses, mais en même temps qui sont aussi conflictuels forcément, puisqu'on frotte avec d'autres institutions, d'autres règles, et qu'il y a des institutions qui sont puissantes, qu'on n'est pas égaux. Que l'administration est puissante. Alors l'État n'est pas monolithique. Hein. Aujourd'hui, il y a un juge qui poursuit aujourd'hui ou qui a validé le fait qu'on poursuive l'État parce qu'il ne fait pas son travail de protection environnementale. Pour moi, la justice, c'est la démocratie. C'est peut-être pas l'État, mais ça fait partie du jeu démocratique. Donc ce jeu, il devient très très compliqué à comprendre. On ne sait plus trop qui fait quoi, et finalement, y a des gens qui s'emparent de ces vides-là pour faire ce qu'ils ont envie de faire, et que ça peut créer des choses positives ou négatives. Et donc, il faut que d'autres gens s'en emparent et discutent. Et ça fait partie de la démocratie, mais c'est compliqué. C'est une démocratie qui est très compliquée, sans doute.
Je me permets de rebondir. Enfin, en t'écoutant tout à l'heure, j'avais jamais percuté que le mot communication, le radical, c'est commun. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que je suis convaincu. Enfin, il y a eu beaucoup de débats sur les lanceurs d'alerte, mais en fait, le fait de saisir la justice, de monter des recours contre la mairie, la préfecture, etc. Enfin, c'est tout. Enfin, l'état de droit est garanti en France là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut faire un recours contre l'acte d'un ministre ou du président en restant chez soi derrière son ordinateur. Effectivement, on fait circuler les argumentations comme ça. Effectivement, là, pour le coup, je pense qu'il y a une canalisation d'avancée du commun par la justice. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça.
En fait, c'est obligé d'être beaucoup plus subtil quand on oppose. On ne peut pas opposer marché et État. C'est pas plus de moins d'État pour plus de marché ou plus de marché pour moins d'État. Non.
Le marché, il n'existe court, pas ouais. sans la régulation étatique. C'est si ça, vous n'avez pas des routes pour la sécurité, pour échanger, il n'y a pas d'échange possible.
Et puis, l'État construit le marché par la monnaie.
Oui, s'il n'y a pas
la
monnaie.
C'est lui qui donne l'indice de la valeur de l'échange. Donc,
qui garantit que l'échange est possible avec un objet qui s'appelle la monnaie. Donc, c'est une régulation qui est extrêmement forte. Mais toutes les règles sur les biens, sur la qualité des biens, les normes, etc., c'est aussi des choses qui permettent de garantir l'échange. C'est qui permettent de construire ces communs. Enfin, s'il n'y avait pas non plus les équipements ou la régulation d'équipements, l'accès à Internet, vous ne pourriez pas construire Wikipédia. Parce qu'il n'y avait pas forcément d'accès. Si aujourd'hui on a en France un accès au téléphone mobile qui est si peu cher, c'est parce qu'à un moment il y a eu une décision de 2 euros pour avoir accès au téléphone. C'est pas beaucoup quand même. Il y a eu une décision de l'État d'organiser la concurrence en donnant des licences supplémentaires. Donc on est en permanence dans une construction, un encadrement par des règles qui vous permettent de faire des choses. Réellement, et qui, alors après, bien ou mal, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on devrait pouvoir faire, et il y a toujours une négociation démocratique, et on sera toujours là-dedans. Et tant mieux, ça fait partie. Enfin, une liberté, c'est. Faut...
Oui, il n'y a rien à jouer. Ouais.
Non, jamais, jamais. Jamais. Ça, et une démocratie n'est jamais parfaite.
C'est la bonne nouvelle, oui.
Merci à Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO, à Michael Lavenne, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, et à Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique. Nous les retrouverons dans le prochain numéro du Lab U. Dans cette dernière émission consacrée aux communs, nous explorerons l'intérêt pour tous de la création de communs. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.